Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français sur la SBS. Bertrand Tonganamé pour vous accompagner ce samedi. Dans votre programme, notre rubrique rétro reviendra sur l'élection de Boris Yeltsin à la tête de la Fédération de Russie lors des premières élections démocratiques de l'histoire du pays. Et Christophe Mallet et Nathanaël Bloch nous présenteront la 80e édition du magazine Europa. Ils reviendront sur les coulisses du sommet du G7 marqué par la première sortie internationale du président américain Joe Biden. Mais avant cela, l'actualité de ce 12 juin. Le Victoria enregistre un nouveau cas de COVID-19 acquis localement le premier jour de levée du confinement. Manifestation monstre pour l'environnement et une lutte équitable contre la COVID-19 en marge du sommet du G7. Et le Mali se dote d'un nouveau gouvernement alors que la France confirme la mort d'un chef d'Al-Qaïda suspecté de l'assassinat des journalistes de RFI. Le Victoria a enregistré un nouveau cas de COVID-19 acquis localement au moment où Melbourne entame son premier week-end hors verrouillage. Des enquêtes sont actuellement en cours sur ce cas qui s'ajoute à 3 autres cas enregistrés, eux, en quarantaine. Le confinement a été partiellement levé et les habitants de Melbourne ne sont pas autorisés à se rendre dans les centres régionaux et ruraux du Victoria pour profiter du long week-end. Les autorités sanitaires enquêtent toujours sur la façon dont 6 cas locaux, dont le couple qui s'est rendu au Queensland via la Nouvelle-Galles du Sud, ont attrapé le virus. Pendant ce temps, les résidents des localités de Nouvelle-Galles du Sud, où le couple s'est rendu, sont invités à se faire tester contre le COVID-19. Les personnes évacuées de la région de Trahalgon peuvent désormais rentrer chez elles car les risques d'inondation s'atténuent dans les chaînes de Gippsland et Yarra. Entre-temps, une deuxième personne a été victime des inondations. Il s'agit d'une femme retrouvée morte dans son véhicule à Glenfine, dans le sud-ouest de Victoria, et elle avait été portée disparue à proximité de Simpson. 121 ménages à travers le Victoria sont toujours sans électricité, certains pour plus de 3 jours déjà. La conseillère municipale de Latrobe City, Sharon Gibson, a déclaré à la chaîne Sky News que les centres d'appel d'aide d'urgence étaient inondés de demandes de secours.
We have areas in our municipality that have been told you won't get power back until Sunday. Our customer center received hundreds of calls yesterday from anything from trees down, and there was 90 odd requests for just the trees for our tree crew alone yesterday.
On revient sur la crise sanitaire avec les professionnels de la santé qui tentent de rassurer les Australiens sur la sûreté et l'efficacité des vaccins contre le COVID-19, ce après le décès d'une femme de la Nouvelle-Galles du Sud suite à un syndrome de coagulation sanguine rare lié à l'injection du vaccin AstraZeneca. Mais avec seulement 2 décès sur plus de 3,5 millions de doses, injectés, les experts disent que l'Australie doit poursuivre sa campagne vaccinale. Le docteur Chris Moy, vice-président de l'Australian Medical Association, a évoqué le décès le plus récent, mais a déclaré qu'il était important de continuer à se faire vacciner.
As a human being, it is clearly a tragedy, and I send my condolences to the family. But as a doctor and looking at the bigger picture, what I would say is that we've just got to keep going with the vaccinations.
Et les experts australiens et internationaux s'efforcent de déterminer les causes de la coagulation, car 31 de ces cas sont sortis de l'hôpital et 15 reçoivent toujours un traitement à l'hôpital, et parmi eux, une personne gravement malade. Et pendant ce temps, l'Italie recommande que le vaccin AstraZeneca ne soit plus administré qu'aux personnes de plus de 60 ans, après avoir examiné les dernières données sur les cas de coagulation sanguine. L'Italie recommande désormais aux moins de 60 ans qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca de recevoir une deuxième dose, soit le vaccin Pfizer-BioNTech ou le vaccin Moderna. Le principal suspect dans le rap et l'assassinat des journalistes de RFI Guylaine Dupont et Claude Verlon en 2013 a été tué samedi 5 juin par une frappe française dans le nord du Mali. La ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé la mort de Baye Agbakabo, abattu par des forces spéciales françaises.
Dans la journée du 5 juin, les militaires de Barkhane ont détecté la préparation d'une attaque terroriste à Aguelok, dans le nord du Mali. Très rapidement, une opération a été engagée contre les terroristes qui s'apprêtaient à frapper une emprise occupée par le bataillon tchadien de la mission des Nations Unies. Cette opération a conduit à éliminer 4 terroristes. Parmi eux, Baye Agbakabo, cadre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et responsable du rapt de nos concitoyens. Sa neutralisation met fin à une longue attente. Mes pensées vont aujourd'hui aux familles, aux proches, aux confrères et aux consoeurs de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon.
Et hier, le colonel Assimi Goïta, le chef militaire au pouvoir au Mali, a désigné les membres d'un nouveau gouvernement dans lequel les militaires obtiennent des postes clés. Explication avec Serge Daniel de RFI.
Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était le principal artisan de la formation du nouveau gouvernement. Il a ramené dans l'équipe des militaires et des civils proches à lui et qui avaient été limogés dans l'éphémère gouvernement formé par l'ancien président de la transition, Bandao, et son premier ministre. Ainsi, le colonel Sadio Camara fait son retour au ministère de la Défense. Des civils proches des militaires retrouvent des portefeuilles qu'ils avaient perdus, par exemple au financier et à l'économie, ainsi que le département stratégique des mines et de l'énergie. D'autres militaires conservent également leur poste. Un galonné remplace un autre à la sécurité. Le colonel-major Daoud était jusque-là chef d'état-major général adjoint des forces armées maliennes. Une nouvelle respiration se dessine dans la lutte contre la corruption avec la nomination de Mahamadou Kassogué, procureur anticorruption au poste de ministre de la Justice. Et puis le M5, mouvement qui a contribué à la chute de l'ancien président Ibeka, détient au moins 5 portefeuilles dans le nouveau gouvernement. Parmi les cadres du mouvement entrant, l'imam Oumarou Diarra, il est désormais ministre délégué chargé des réfugiés et des déplacés.
Et des manifestations monstres ont eu lieu en marge du sommet du G7 dans le sud-ouest de l'Angleterre pour exiger des dirigeants mondiaux des mesures sur le climat, la pauvreté et la Covid-19. Cela survient alors que l'Australie dit qu'elle fournira 20 millions de doses de vaccination contre le Covid-19 aux pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Les dirigeants des pays occidentaux devraient se prononcer sur un plan visant à octroyer 1 milliard de doses de vaccins contre le coronavirus aux pays les plus pauvres. Mais selon les manifestants, ce plan manque d'ambition. Kirsty McNeil de l'organisation caritative Save the Children a déclaré que les dirigeants du G7 devraient accepter de partager les brevets sur les vaccins et les doses contre le coronavirus avec les pays en développement.
Crucially and most importantly, they need to share the bill. We've estimated it costs anywhere between $50 and $66 billion to vaccinate the world. That's what they've said they want to do, but so far we've seen no financing plan that would enable them to do that. So crucially, in the coming days, we really want them to show us the money.
Plusieurs centaines de manifestants pour la défense de l'environnement, certains déguisés en dirigeants mondiaux et d'autres tambourinant, se sont réunis pour avertir les dirigeants d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et le prince Charles a également exhorté les dirigeants des pays du G7 à lutter contre le changement climatique avec autant d'importance que la pandémie de coronavirus.
The fight against this terrible pandemic provides, if ever one was needed, a crystal clear example of the scale and sheer speed at which the global community can tackle crises when we combine political will with business ingenuity and public mobilization.
Entre-temps, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en doute le succès des discussions sur le changement climatique en l'absence de la Chine. Retour en Australie où des célébrités se sont réunies pour souhaiter à la fillette de Bileloa, Tarnica Mekun, son 4e anniversaire. Elle est soignée actuellement à l'hôpital pour enfants de Perth pour, suite à une infection sanguine. Tarnica est la plus jeune fille de la famille Moogapan et elle a été évacuée médicalement de Christmas Island vers Perth avec sa mère, Priya, la semaine dernière. Des célébrités telles que Miranda Tapsell, Dan Sultan, Justin Clark et d'autres se sont réunis pour chanter la chanson préférée de Tarnica, Twinkle Twinkle Little Star, pour son anniversaire. Son père Nadès et sa sœur aînée Kopika lui ont également envoyé un message vidéo à l'occasion de sa journée spéciale.
Happy birthday, Tarnica. I miss you.
I miss you.
I love you, Tarnica.
I love you, Tarnica.
Bye, see you.
Il faut signaler que le séjour à l'hôpital est le plus long que Tarnica ait passé éloignée de sa sœur et de son père. Sa mère Priya signale que Tarnica est bouleversée par la séparation et ne comprend pas que cette situation est temporaire. Entre-temps, la pression monte sur le gouvernement australien pour trouver des options de réinstaller la famille en Australie. Et en sport, victoire des Socceroos hier 3-0 contre le Népal. Ce résultat permet à l'équipe nationale australienne de se qualifier pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Les buts en première mi-temps du capitaine Matthew Leckie et Fran Karacik ont permis à l'équipe de l'entraîneur Graham Arnold de s'asseoir confortablement au stade international Jaber Al Ahmad du Koweït avant que le but à bout portant de Martin Boyle ne porte le score à 3-0 après la pause. Avec 7 victoires en 7 matchs, l'Australie est qualifiée pour le prochain tour des qualifications, quel que soit le résultat de son match contre la Jordanie mercredi 16 juin prochain. Selon Matt Leckie, en dépit de cette victoire, il y a encore du travail à faire.
Just because we're qualified now, obviously it's a good achievement and it's what we wanted, but we want more as well. So we'll definitely prepare ourselves well for the final game against Jordan. I'm sure Arnie will put out a very strong side and we want to go home with all 4 wins and continue our unbeaten record.
Et pour la petite histoire, il faut signaler que cette victoire porte à 6 la séquence des victoires consécutives des Socceroos à l'extérieur, un objectif qui n'avait pas été atteint depuis les années 60. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth 19 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 15, Canberra 11 degrés, Wollongong 19, Sydney 19 également, Newcastle 18, Brisbane 22 degrés, Cairns 28 et Darwin 31 degrés. À présent, un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. Le Victoria enregistre un nouveau cas de COVID-19 acquis localement le premier jour de levée du confinement. Une manifestation pour l'environnement et une lutte équitable contre la COVID en marge du sommet du G7. Et le Mali se dote d'un nouveau gouvernement alors que la France confirme la mort d'un chef d'Al-Qaïda suspecté de l'assassinat de journalistes de RFI.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Dans ce magazine des sports, on commence avec le tennis. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, va affronter Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros après avoir battu Rafael Nadal, troisième joueur mondial, considéré comme le roi de la terre battue. Victoire donc de Djokovic en 4 manches, 6-2, 7-6, 6-3, 3-6. C'était la troisième défaite de Nadal à Roland-Garros et la deuxième contre Djokovic sur terre battue. À l'issue de la rencontre, Djokovic a déclaré que c'était son meilleur match à Roland-Garros et parmi les trois premières de toute sa carrière.
Considering quality of tennis, playing my biggest rival, you know, on the court where he has had so much success and has been the dominant force in the last, you know, 15 plus years, and the atmosphere which was completely electric.
Djokovic affrontera donc le grec Stefanos Tsitsipas en finale avec une chance de remporter un 19e trophée de Grand Chelem, juste un derrière le record masculin détenu par Nadal et Roger Federer. Tsitsipas est devenu de son côté le premier joueur grec à disputer une finale du Grand Chelem en battant Alexander Zverev en 5-7, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 et 6-3. Côté dames, ce soir, la finale opposera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova à la Tchèque Barbora Krejcikova dans une des demi-finales les plus imprévisibles de Roland Garros. Après un an d'attente, coup d'envoi du championnat d'Europe de football, et bien un match d'ouverture, un sans faute pour l'Italie qui a battu la Turquie 3-0. Je vous propose un extrait de la couverture de ce match sur RFI avec Hugo Moissonnier et son équipe.
C'est une victoire 3-0 devant son public pour la Squadra Azzurra, une belle soirée romaine pour l'équipe d'Italie et pour le peuple italien, parce qu'on sait évidemment ce que représente symboliquement cette ouverture de l'euro à 11 pays hôtes, cette ouverture à Rome, dans le premier pays européen touché, violemment touché par la pandémie de Covid-19.
Et en termes de statistiques pures, 9e victoire de suite pour cette équipe d'Italie, 29 buts marqués, 0 encaissés. Cette équipe italienne est une machine de guerre en ordre de marche.
Ouais, 9e match avec une copie propre pour Donnarumma et la défense.
Les Bleus entrent en action mardi prochain, un match d'ouverture donc de cette Coupe d'Europe version 2021, pas facile, contre les Allemands. Qu'en pensent nos confrères de RFI sur les chances des Bleus dans cette rencontre ?
Bref, dans un groupe de la mort, hein, il ne faut pas rater son entrée en lice, hein, côté équipe de France. Ça sera l'Allemagne d'entrée, ensuite la Hongrie, on est à ce moment-là un petit peu sur un faux plat descendant, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on reprend un col de hors catégorie avec le Portugal, champion d'Europe en titre, qui avait battu la France en finale en 2016. Bref, cette équipe de France, on va la suivre évidemment lors de ce premier tour, en espérant qu'elle réussira une entrée en lice comme on a vu aujourd'hui de la part de l'équipe d'Italie.
Passons à présent au sport en Australie avec le code le plus populaire du pays. Victoire hier de Geelong contre Port Adelaide, 112-91. Victoire également des Hawthorn, 89 points contre les Sydney Swans qui eux n'ont marqué que 51 points. Au tableau de l'AFL cet après-midi, Fremantle joue contre Gold Coast. Au tableau, il y a également une rencontre entre St Kilda et Adelaide. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi, suite du programme après la pause. Ça, c'est vraiment toi avec le groupe Téléphone sur les antennes de la radio SBS à 13h24 et 11 secondes. Après la pause, restez avec nous parce qu'après la pause, nous allons vous parler de l'accession de Boris Yeltsin au pouvoir en Russie. C'était un 12 juin, et c'était en 1991.
Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation sbs.com.au/french.
Dans notre rubrique rétro, retour sur le 12 juin 1991 avec l'élection de Boris Yeltsin à la tête de la Fédération de Russie. Boris Yeltsin a réussi l'exploit avec 57% des suffrages après avoir fait campagne contre ce qu'il a appelé la dictature du centre. élection historique, car la toute première élection démocratique pour le président de la Fédération de Russie. Retour sur l'élection de Boris Yeltsin avec un extrait des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.
Pour Mikhail Gorbatchev, toujours ses difficultés intérieures. Ce matin, c'est Boris Yeltsin, à la tête du Parlement russe, qui a voté la souveraineté de la Fédération de Russie et son droit à faire sécession de l'Union soviétique. Les parlementaires russes ont voté en masse et à une large majorité.
Le peuple de Moscou a appris la nouvelle. Boris Yeltsin est élu président de la Russie. Lui, le renégat, évincé du bureau politique et de la direction du parti de Moscou parce que trop réformateur, lui est arrivé au pouvoir. Le processus était simple. Plus les apparatchiks et Mikhail Gorbatchev s'acharnaient contre lui, plus il gagnait en popularité. Député de Moscou, le voici maintenant maître de la Russie, c'est-à-dire de trois quarts du territoire de l'URSS, de la moitié de la population soviétique. On est prêt à toutes les souffrances pour être à côté de lui, à ne pas boire, à ne pas manger. Il va se battre contre la mafia. Lui, c'est un homme honnête. On attend de Yeltsin qu'il change le système communiste, autoritaire, politicien, bureaucratique, totalitaire, ce parti de dictature et de dictateur. Le peuple, lui, Yeltsin, sait écouter ses désirs. Et de Gorbatchev, qu'est-ce que vous en pensez ? Gorbatchev, le peuple ne l'a pas élu, c'est lui-même qui s'est désigné tout seul. Le programme de Yeltsin, une Russie souveraine, plus détachée du pouvoir central, sans toutefois parler d'indépendance. Élu avec la moitié des suffrages, plus quatre voix seulement, il a déjà annoncé qu'il tendait la main à ses adversaires. Une autre conciliation plus épineuse l'attend, celle avec Mikhail Gorbatchev, l'autre maître du Kremlin.
Boris Yeltsin a toute chance d'entrer dans l'histoire de l'URSS comme premier président élu au suffrage universel, président de la République de Russie, pour l'instant du moins. Selon le président de la commission électorale à Moscou, il aurait en effet obtenu 55% des voix dès le premier tour. Nos correspondants à Moscou, Corinne Pertuis et Jean-François Bernigaud, tracent pour nous le portrait de cet apparatchik en qui certains voient le Valessa soviétique, alors que les communistes orthodoxes dénoncent au contraire un démagogue autoritaire assoiffé de pouvoir.
Boris Nikolaïevitch Yeltsin a été pendant la plus grande partie de sa vie un apparatchik tout à fait dans le rang, qui a gravi, comme Mikhail Gorbatchev d'ailleurs, tous les échelons du pouvoir de l'Oural à Moscou. Mais Boris Yeltsin a évolué. Il se veut maintenant radicalement démocrate. Une évolution due aux événements, lui affirme rester le même. Un homme issu d'une famille pauvre et qui a toujours foncé droit devant. Diabétique, souffrant de problèmes cardiaques et de dos, certains disent aussi problèmes de boisson, Boris Yeltsin donne pourtant une impression de force. Il était conducteur de grue, puis peintre en bâtiment à ses débuts. Il se sent d'ailleurs plus à l'aise avec les mineurs au fond de la mine qu'au milieu d'une église. Sa mère, pourtant, l'a baptisé orthodoxe. À la question « Quelles sont vos faiblesses ?», il avoue « Ma faiblesse, c'est ne pas savoir me reposer. » Même s'il ne dort que 3 ou 4 heures par nuit, Boris Yeltsin n'a pas eu le temps d'apprendre une langue étrangère. Il le regrette. Mais ce qu'il ne sait pas faire, Boris Yeltsin demande à d'autres de le faire pour lui. C'est son système, s'entourer d'hommes cultivés, dont il s'imprègne. En un an à la tête du Parlement de Russie, Boris Yeltsin a appris le métier d'homme politique, essayant de gommer son caractère impétueux, que certains disent buté. Il l'a fait pour pouvoir devenir un véritable chef d'État, le premier président de la Russie.
Un journal de 13 heures que nous commençons bien évidemment par la démission de Boris Yeltsin.
Avec notre correspondant à Moscou, Gilles Rabin, nous évoquons tout d'abord l'énorme surprise provoquée par cette annonce.
Je pars. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Je veux vous demander pardon. Pardon pour tous les rêves qui ne se sont pas réalisés. Pardon pour tout ce qui nous paraissait simple et qui a causé tant de souffrances. Pardon de n'avoir pas su assumer vos espérances. Étonnant mea culpa de Boris Yeltsin qui demande pardon pour presque tout, sauf pour les deux guerres de Tchétchénie et leurs milliers de morts, sauf pour la corruption et les affaires qui touchent jusqu'à sa famille. C'est le dernier acte pour celui qui restera le premier président de Russie élu démocratiquement, un homme contesté et contestable, mais qui aura été un grand acteur de l'histoire dans tous les sens du terme, mêlant en permanence la grandeur et la farce. Cette décision est logique après la victoire aux dernières législatives du Premier ministre Vladimir Poutine, qui est nommé président par intérim pour 3 mois, comme le prévoit la Constitution. Poutine, le dauphin désigné de Yeltsin, est au plus haut dans les sondages. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, il serait élu dès le premier tour.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
N'embrouille pas la Massilia, sinon tu risques des problèmes, cousin. Tu le sais?
Oh là, tu les as à la maison. Y'en a un qui a toujours soif et l'autre qui a toujours raison. Et si ça t'intrigue, tu pourras l'étudier. La soupe de Brigue est un art marseillais.
Et c'était sale caractère par Massilia Sound System. À présent, place à une pause. Mais après la pause, nous retrouvons Christophe Mallet et Nathanaël Bloch dans la 80e édition du magazine Europa. Un magazine consacré sur les dessous du sommet du G7 et de la visite à la première sortie internationale du président Joe Biden.
Europa Voice numéro 80, et comme à chaque fois je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, et bon anniversaire de ce numéro 80.
80, c'est un nombre rond, donc c'est bien, c'est sympa.
Tout à fait.
Allez, on va parler de deux sujets, comme on fait à chaque fois dans Europa Voice, et on va d'abord débuter avec la visite de Joe Biden, le président américain, en Europe, et donc ça peut découler pour nous sur une discussion sur les relations entre l'Europe et les États-Unis.
Oui Christophe, alors tout à fait, alors Joe Biden qui a... un trip, comme on dit en Europe, en ce début du mois de juin. Il sera en fait en Europe du 11 au 16 juin. Et il faut dire que Joe Biden, il a véritablement lui-même fait les relations médias de son propre voyage en Europe, puisqu'il avait, il a publié en fait dans le Washington Post au début du mois de juin, le 6 juin, une opinion où il expliquait en fait la raison de ce déplacement en Europe et d'une certaine façon poser les jalons d'une nouvelle relation avec l'Europe. Son titre, il est assez explicite, c'est « Joe Biden, my trip to Europe is about America rallying the world's democracy ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est le premier élément, Christophe, peut-être dont on peut parler dans cette Europa Voice numéro 80, l'idée que c'est l'Amérique qui va se joindre aux démocraties du monde, et j'allais dire par rapport à l'Europe, à ce qu'il reste de démocratie. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on sait que même au sein de l'Europe, on a de plus en plus de mouvements non démocratiques, de pays illibéraux. Je pense à la Hongrie, notamment. Je pense à certains courants en Pologne. Et donc, c'est une main tendue de Joe Biden à faire alliance avec ces pays qui reste encore dans la sphère démocratique et libérale, au sens anglo-saxon du terme, en Europe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voyage ? On pense que c'est une page qui se tourne après l'après Trump, parce que c'est aussi la façon dont Biden fera de l'administration, de son administration américaine sur le plan international, donc en commençant par l'Europe. C'est aussi ça qui va être un enjeu, c'est de savoir comment l'Europe tourne cette page de Trump et comment les États-Unis tournent cette page trumpiste envers l'Europe.
Alors, sur cette question d'abord des États-Unis, hein, si on se concentre sur le pays, je crois qu'abord il y a deux éléments qui sont intéressants dans les relations qui vont être nouées entre les Européens et Joe Biden. D'abord, du côté des États-Unis, en fait, on observe que finalement, il n'y a pas d'effet Biden, mais de la même manière qu'il n'y avait pas vraiment eu d'effet, à part un effet un peu cosmétique, allons, n'ayons pas peur des mots, d'effet Obama après Bush. Ça, c'est une analyse de l'ONG German Marshall Fund, qui, dans son étude transatlantique annuelle, pointait cela du doigt. C'est-à-dire que, un peu comme avec Obama, on avait écrit une certaine histoire américaine qui, en fait, n'est pas arrivé et que Joe Biden, ce n'est pas qu'il s'inscrit dans la continuité de Trump, évidemment que non, mais en tout cas, il n'y a pas un effet, un aussi wow effect qu'on pouvait attendre. Le deuxième élément, Christophe, justement par rapport à cette main tendue vers d'autres démocraties, c'est qu'on le voit encore maintenant aux États-Unis, ces dernières semaines, elles ont montré à quel point les forces antidémocratiques, alors plutôt au sein du Parti républicain, elles restaient d'actualité, elles restaient agressives, combatives. Et un exemple qui est très parlant, c'est que les élus au Congrès ont même réussi à bloquer la constitution d'une commission d'enquête. Vous rappelez, Christophe, sur la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, qui avait été commenté partout dans le monde, parce que c'est évidemment un acte, par essence, l'acte anti-démocratique par excellence. Donc ça, c'est du côté des États-Unis. Et après, du côté européen, finalement, pour Joe Biden, encore une fois, c'est affirmer des valeurs communes avec et des valeurs démocratiques partagées avec ces pays, encore une fois, au sein de l'Europe, qui restent dans une sphère démocratique, dans une sphère libérale. Et puis, à l'heure du multilatéralisme, Christophe, Joe Biden a directement désigné, non pas des ennemis, hein, mais des partenaires avec lesquels il va falloir composer, mais qui pour l'instant ne sont pas dans le giron des États-Unis. Et dans son éditorial, il a clairement fait référence aux activités nocives, hein, harmful activities en anglais, des gouvernements chinois et russes, alors même que Joe Biden va rencontrer son homologue russe en Europe. Donc vous voyez, il y a une affirmation de la part de Joe Biden du partage de valeurs démocratiques. Et je ne sais pas si c'est refondé une alliance transatlantique, mais en tout cas, c'est refondé une alliance de ce qu'il reste des démocraties dans cette tournée européenne de Joe Biden.
Alors après, il faut quand même bien imaginer que les États-Unis resteront les États-Unis, l'Amérique restera l'Amérique. Ils sont pas là pour ouvrir la porte à l'Europe sur leur marché américain. Il y a sûrement des choses de l'ère Trump qui vont rester en place. Et faut se rappeler que Joe Biden est pas un président du monde, il est président américain avec des intérêts américains en tête.
Bien sûr, alors, évidemment, hein, Joe Biden reste le président des Américains. Il défend des intérêts américains, mais j'allais dire, il y a quand même certains signes de cette, encore une fois, de cette main tendue, en tout cas de ce multilatéralisme, de cette alliance. Si on prend juste l'exemple du Covid, hein, c'est cette annonce cette semaine la fourniture par les États-Unis d'un nombre important, justement, de vaccins aux pays du tiers-monde ou de pays qui ont des difficultés à accéder à ces vaccins. Donc, il y a quand même des signes. Évidemment, Joe Biden reste le président, Christophe, des États-Unis, mais il y a des signes d'une volonté d'une certaine façon, de sortir de cet isolationnisme trumpien de ces quatre dernières années et de renouer un dialogue constructif avec des partenaires européens. Et puis, encore une fois, hein, on est à un moment où on n'est plus dans une guerre froide, mais on est à un moment où même au sein de l'Europe, c'est-à-dire au sein d'un partenaire historique, on a des mouvements illibéraux, antidémocratiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, son premier déplacement, c'est sur le sol anglais et c'est réaffirmer, voilà, son alliance avec son partenaire historique. Alors, c'est plus l'Union européenne, mais vous voyez, il y a quand même, et c'est très symbolique, hein, Christophe, ça s'est passé au moment des dates, des commémorations du débarquement, etc. Donc, il y a cette volonté véritablement de faire un pas de côté et de renouer cette alliance des démocraties, bien sûr, à côté de tout un tas de sujets beaucoup plus économiques, de beaucoup plus business, sur lesquels d'ailleurs Joe Biden va répondre, puisque on sait que ces rencontres du président américain, et ben elles interviennent quelques jours après la réunion des ministres des finances du G7, qui ont réussi à Londres à poser un cadre pour l'imposition des multinationales et surtout un taux minimum commun pour l'impôt sur les sociétés. Donc, évidemment, ça c'est un élément aussi important, c'est qu'on est en train de construire une coopération qui va au-delà des aspects politiques, mais qui vont avoir des impacts très concrets sur des questions globales de fiscalité, d'impôts sur les sociétés, d'innovation, de recherche, etc.
Ouais, Joe Biden a également, par contre, tiré un peu les oreilles de Boris Johnson, plutôt sur le côté du Brexit, en le rappelant qu'il fallait surtout ne pas mettre en jeu la paix en Irlande du Nord également.
Oui, Christophe, tout à fait. Enfin, encore une fois, je crois que Joe Biden, ce qu'il est en train de faire en Europe, ce qu'il a fait avec Boris Johnson et ce qu'il va faire avec le président français et ses autres partenaires européens, voilà, c'est d'assurer une stabilité dans ses partenaires démocratiques en Europe. Ça va pour les membres du G7 et ça va aussi pour des cas ou des situations, j'allais dire, plus particulières comme celle du Brexit et de la paix et de la stabilité irlandaise au Royaume-Uni.
Ouais, et il y a un dernier point, et puis après on va passer à notre autre sujet, mais ça peut faire le lien. Il y a cette question des brevets sur les vaccins anti-Covid. Ça, c'est forcément quelque chose qui va ou qui a été discuté, puisqu'on sait que le président Macron est plutôt favorable, malgré le fait qu'il ait été défavorable auparavant. Le vent semble tourner. Est-ce qu'on sent que le vent tourne également en Europe et on pourra avoir une libéralisation des brevets des vaccins, ce qui devrait normalement pouvoir permettre la fabrication des vaccins plus facilement et donc la distribution des vaccins plus facilement dans les pays en voie de développement?
Alors je crois qu'il y a deux éléments, Christophe, sur cette question. Le premier élément, c'est qu'on est à un momentum pour aborder ces questions-là qui est beaucoup plus favorable. Et rappelez-vous-en, on en a discuté dans des précédents numéros de Europa Voice. On est dans un momentum beaucoup plus favorable pour en parler maintenant parce que on atteint des taux élevés de vaccination de population aux États-Unis, en Europe. On est dans une phase de déconfinement et de retour à ce qu'on pourrait appeler la vie normale. Donc, forcément, vous avez une acceptation à la fois politique et sociétale de ces questions-là qui est beaucoup plus facile parce que tout simplement, encore une fois, on est dans un moment plus propice pour en parler. Et puis le deuxième aspect, Christophe, c'est que je crois ce qui avait buté dans les premiers mois de discussion autour de ces questions de d'autorisation mise sur le marché, de brevets, etc., c'est qu'on avait l'impression que le politique ne prenait pas en compte l'avis finalement des acteurs principaux, les laboratoires pharmaceutiques, etc., et qu'on voyait pas, qui n'arrivait pas à voir finalement que l'investissement qui était fait pour la recherche, la technologie, etc. Et donc, en parallèle, se sont tenues, alors pour l'instant, elles sont pas véritablement publiques, mais se sont tenues évidemment des discussions avec les laboratoires, avec les entreprises dans la recherche et l'innovation. Et donc, encore une fois, on est cette fois dans une phase un peu plus avancée, beaucoup plus calme, on n'est pas dans la précipitation. Et donc, tout ça va évidemment favoriser la distribution de vaccins. On l'avait évoqué aussi dans un précédent numéro d'Europa Voice par le prisme de COVAX, hein, qui est cette mutualisation aussi des vaccins en Europe et cette possibilité d'en distribuer à des pays en développement et plus défavorisés. Et donc, oui, tout ça, Christophe, va de pair ensemble et on peut voir, difficile de lire dans les boules de cristal, mais en tout cas, on pourra voir certainement une évolution sur cette question-là dans les mois à venir et notamment si on s'apprête à avoir des injections annuelles, comme sur le modèle de la grippe, du vaccin contre le Covid.
Ouais, tout à fait. Alors, on va passer au deuxième sujet. Et c'est intéressant, c'est la reprise de l'économie, l'attractivité d'un pays comme la France. Et c'est une étude d'ailleurs qui est sortie récemment, une étude qui tombe à point nommé pour le président Emmanuel Macron, qui est plus ou moins officiellement, non officiellement, mais en tout cas en campagne pour sa réélection en mai l'année prochaine.
Oui, Christophe. Alors c'est une étude d'abord pour parler d'études. Donc c'est une étude établie, c'est un baromètre en fait de l'activité qui est établi annuellement par le cabinet anciennement Ernst & Young EY et qui montre effectivement que l'Hexagone est toujours la meilleure place en France pour des entreprises pour venir s'installer et investir, et ça devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors sur votre question, Christophe, parce que je sais, je vois que c'est ça qui vous intéresse sur la question d'Emmanuel Macron, effectivement, ça vient à point nommé parce que il est attaqué en ce moment par la droite notamment et par l'extrême droite sur les sujets régaliens, sur les sujets sécuritaires, et ça lui permet, et rappelez-vous-en Christophe, on en a parlé, hein, de cette technique de l'encre, hein, de savoir où est-ce que vous-même vous lancez votre encre pour installer le débat, bah, ça lui permet de déplacer cette encre et d'être plus à l'offensive sur les questions économiques et donc de faire réagir les candidats et adversaires potentiels sur des questions économiques où Emmanuel Macron, avec cette étude, ce baromètre notamment, est plus à son avantage que sur des questions, encore une fois, sécuritaires ou régaliennes.
Alors, ça nous dit quoi justement à propos de cette attractivité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une pandémie qui est passée par là, mais c'est une pandémie qui a touché tout le monde. Donc, on peut dire que la planète entière a été impactée. Est-ce qu'on peut dire que la France, par exemple, économiquement a peut-être été un peu moins impacté qu'autre chose. Ou est-ce qu'on peut gérer cette attractivité ou cette augmentation de l'attractivité après le Brexit? Est-ce que c'est l'effet post-Brexit? Est-ce qu'on a une analyse de ce baromètre?
Alors, il y a plusieurs enseignements, Christophe, dans ce baromètre EY. D'abord, l'enseignement... j'allais dire global, macro, c'est que la crise du Covid, hein, qui a touché tous les pays du monde, comme vous l'avez dit, et tous les pays européens, finalement n'a pas eu raison de la première place décrochée déjà en 2019. Et la France, encore une fois, reste en tête de ce classement par rapport au nombre de projets d'implantation qui, lui, effectivement, est globalement en baisse. Mais si vous voulez, on peut dire qu'en France, la baisse a été moins grande que dans d'autres pays. Donc ça, c'est les premières... enseignement. Le deuxième enseignement, Christophe aussi, et ça c'est si on va plus dans le, j'allais dire dans le qualitatif et dans l'analyse qui a été faite auprès justement des dirigeants d'entreprise, etc. C'est que on voit que finalement il y a une corrélation qui n'a pas été faite, qui est très faible entre la stratégie sanitaire qui en France a été beaucoup critiquée comme dans plein de pays pour avoir été un frein aux activités économiques. Et ben il n'y a pas de corrélation entre cette stratégie sanitaire très critiquée et les grands projets. Donc difficile en fait, c'est un avantage pour Emmanuel Macron, c'est difficile de voir la stratégie sanitaire mise en place comme quelque chose qui a freiné l'activité économique. Et puis le troisième enseignement, j'allais dire un peu macro de cette étude Ernst & Young EY, c'est que environ 40% des projets, donc de ces projets d'implantation en France, se font au bénéfice de ce qu'on appelle dans la nouvelle langue macronienne les territoires, donc se font en dehors de Paris et dans des villes de moins de 40 000 habitants. Donc, ça diffuse, ça ruisselle, si vous voulez, et ça, encore une fois, c'est très propice à la langue macronienne. Voilà, je crois que ce sont les trois enseignements. C'est que le Covid n'a pas eu raison de la première place décrochée par la France déjà en 2019. C'est que on voit pas de corrélation entre la stratégie sanitaire et les résultats économiques. Et troisième enseignement, Christophe, c'est qu'on a un peu moins de la moitié de ces nouveaux projets d'implantation qui se font en dehors de Paris au bénéfice de ce qu'on appelle les territoires.
Si on élargit un peu, on en a touché deux, trois mots sur cette élection présidentielle, à quel point le président Macron a besoin de ça? À quel point il a besoin de ces bonnes nouvelles? Vous expliquiez tout à l'heure, il est en terrain conquis sur le territoire économique parce que ça a été son nerf de la guerre pendant presque toute sa carrière à Emmanuel Macron. À quel point c'est important pour lui, si tôt, j'allais dire, dans cette course à l'élection présidentielle?
Alors, c'est important, Christophe, effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est important parce qu'il a été attaqué de toutes parts sur ces questions régaliennes, sécuritaires, au rang desquelles, hein, on peut en discuter, dresser quelques-unes, la crise des gilets jaunes, effectivement, la montée de l'insécurité, le terrorisme qui a aussi frappé pendant le mandat d'Emmanuel Macron, les réformes d'une justice jugée par ses adversaires trop laxiste. Donc, vous voyez, il est attaqué constamment sur ces aspects sécuritaires régaliens. Par contre, sur le volet économique, encore une fois, il y a eu de nombreuses réformes fiscales qui ont été menées depuis son élection et jusqu'aujourd'hui. Je pense notamment à celle sur le marché du travail, mais il y a aussi les baisses de l'impôt sur les sociétés, sur le capital, la baisse des impôts de production. Donc, il y a beaucoup de réformes économiques fiscales qui ont été mises en place. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, ce baromètre constitue pas l'intégralité, mais une partie de la réponse à ces réformes fiscales. Et c'est sur ça que le président Macron va jouer. Il va dire, vous m'aviez accusé, je prends un autre exemple, d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune au début de mon mandat, d'avoir fait une flat tax avec, donc vous savez, c'est un taux d'impôt unique. À ce moment-là, c'était sur les dividendes. Et ben finalement, ces réformes qui étaient impopulaires, qui ont été beaucoup critiquées, mais que Macron avait, pour le coup, hein, il faut lui reconnaître ça, avait défendu et avait une certaine cohérence avec cette ligne économique, ce baromètre, il lui permet de justifier cet ensemble de réformes et presque de mettre la crise sanitaire de côté. Et donc, forcément, le président va jouer de ça et va s'engouffrer, si vous voulez, pour dire voilà, là, on a dû faire face à la crise sanitaire et malgré ça, on a ces résultats économiques. Donc, pour un deuxième mandat, post-crise sanitaire, on va véritablement voir les effets bénéfiques et positifs de ces réformes économiques et fiscales.
Impeccable, bah, affaire à suivre hein, dans tout ça, ça va être notamment au cœur de nos Europa Voice dans les semaines, voire les mois à venir. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
C'était Voyage à Paris de Oasis Diop. Des principaux titres de l'actualité de ce samedi, le Victoria enregistre un nouveau cas de Covid-19, acquis localement le premier jour de levée du confinement. Une manifestation pour l'environnement et une lutte équitable contre la Covid-19 en marge du sommet du G7. Et le Mali se dote d'un nouveau gouvernement, alors que la France confirme la mort d'un chef d'Al-Qaïda suspecté de l'assassinat du journaliste de RFI. Et ceci nous amène à la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec le français. Le programme donc en français, c'est demain dimanche et vous serez en compagnie de Jean-Noël Ducasse. Et je vous invite également, avant ce programme, de continuer la conversation sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez également retrouver la plupart de nos rubriques sur notre site internet sbs.com.au/french. Merci de votre fidélité, bon après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.